Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromit z Europy.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Notre invité a longtemps été un proche collaborateur de François Mitterrand avant de devenir ministre des Affaires étrangères du gouvernement Jospin. Aujourd'hui, il est consultant et enseignant à Sciences Po. On le présente généralement comme un eurosceptique, même si lui se voit plutôt comme un euro-réaliste. Dans un petit livre qu'il vient de publier, Sauver l'Europe, chez Liana Levy, il définit une méthode pour relancer cette Europe en panne et surtout pour la réconcilier avec les Européens qui sont de plus en plus nombreux à douter de ses bienfaits. Bonjour Hubert Verdini.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Clémentine Forissier, rédactrice en chef du site contexte.com. Et cette semaine, vous pouvez nous suivre en audio, bien sûr, sur le réseau mondial de RFI et en vidéo sur RFI.fr. Hubert Védrine, il y a dans votre livre, petit livre, 100 pages, un constat, un diagnostic et quelques pistes pour surmonter cette crise qui est d'abord une crise de confiance des Européens envers l'Union Européenne. Nous avons pratiquement une heure pour en parler. Il y manque toutefois un paragraphe de taille et pour cause, votre livre est sorti en librairie le 4 novembre, soit 4 jours exactement avant l'élection de Donald Trump. Vous n'avez pas cru un seul instant à cette victoire du millionnaire de l'immobilier ?
Vous remarquerez en le lisant, enfin vous l'avez lu d'ailleurs je crois, que le livre n'est pas contredit par l'élection de Trump. L'analyse sur le mécontentement des peuples sous différentes formes. D'autre part, en ce qui me concerne, j'avais commencé à dire avant l'été que Trump pouvait être élu. Je l'ai dit dans certains médias français, dont les gens avaient le souffle coupé quand ils entendaient ça. Ils trouvaient même angoissant, inquiétant que quelqu'un comme moi dise que c'était possible. J'ai jamais dit que c'était souhaitable, ni que ça aurait lieu. Puis à la fin, j'étais comme tout le monde, avec les sondages contradictoires, je ne savais pas. Mais il n'y a pas de raison d'attendre, parce que la question européenne, de toute façon, se posait avant. Avant le Brexit, elle se pose depuis des années. Et le décrochage en cours des peuples, surtout si on additionne les vrais anti-européens, plus les sceptiques, plus les déçus, plus les allergiques, on atteint quand même des chiffres de genre de 70 à 80%. Donc le problème se posait massivement déjà avant.
Vous voulez dire que les Européens sont peu nombreux ?
Il n'y a pas d'Européens, il y a des gens qui croient vraiment à l'Europe fédérale au sens classique, mais électoralement ils ne comptent pas, on ne peut même pas les repérer. Ils sont assez importants dans les médias, les think tanks et les milieux économiques. Mais disons simplement les pro-européens classiques, au sens centre-gauche, centre-droit, ils forment 15-20%. C'est une moyenne. Je parle pas de la France, hein, je parle des pays européens en général. Dans quelques pays un peu plus, dans certains pays plus du tout. Donc c'est quand même très minoritaire. D'ailleurs, rappelez-vous aussi que 60% des Européens ne votent même pas pour l'élection au Parlement européen. Voyez. Donc l'addition de tout ça, c'est pas nouveau. Il y a plein de signes annonciateurs depuis 10, 15, 20 ans qui n'ont pas été entendus par le, entre guillemets, le système, il faut se demander pourquoi.
Clémentine Forissier.
Le premier choc, justement, qu'a connu l'Europe, c'était au mois de juin, avec le vote sur le Brexit. Quel lien faites-vous entre l'élection de Donald Trump et le Brexit en termes de ressort chez les citoyens ?
D'abord, je pense que le Brexit n'a pas été simplement une aberration britannique. Aberration, parce que c'est complètement irrationnel de leur point de vue. Mais à mon avis, j'ai déjà dit avant le Brexit, d'ailleurs, que ça serait le signe d'un malaise plus général. Du fait que les peuples, comme je viens de les énumérer, pour différentes raisons, décrochent. Mais je ne confonds pas les anti-européens et les sceptiques. Et d'ailleurs, moi, je ne suis pas du tout sceptique, je suis eurocritique. Et il faut faire attention, il faut préciser le langage. Par exemple, quand les médias disent que Marine Le Pen est eurosceptique, c'est idiot. Elle est anti-européenne. Elle n'est pas eurosceptique. Les sceptiques, c'est tout le monde. Quasiment, les 60% qui ne vont même pas voter. C'est ceux qui doutent. Ils ne sont pas forcément contre l'idée, mais qui doutent. Alors, le lien, c'est qu'à peu près partout en Occident, les classes moyennes se sentent flouées, en fait. Elles ont cru à la mondialisation heureuse, un petit peu, on leur a dit, puis finalement, c'est plutôt les autres parties du monde qui en ont bénéficié.
Pas passé non plus.
Oui, bien sûr. Mais finalement, la mondialisation dérégulée, celle des 30 dernières années, très financiarisée, trop financiarisée, devenue un peu économie casino. Elle a permis de sortir, il faut le rappeler quand même, de la pauvreté la plus abjecte, des centaines de millions de paysans asiatiques ou africains ou latino-américains, etc. Mais les classes moyennes occidentales, non. Elles n'y ont vu que remise en cause. On leur a demandé d'être compétitives, ils n'avaient rien demandé. Vous n'avez pas le choix, il faut être compétitif. Et ils ont vu qu'il fallait déconstruire une partie des fameux acquis pour être compétitif par rapport à l'ensemble des autres. Donc au bout d'un moment, les classes moyennes ont décroché, on en voit des signes depuis très longtemps en fait. C'est quand même curieux que beaucoup de gens aient dû attendre l'élection de Trump qui sonne comme un de coup de gong par rapport à tout ça pour découvrir ce phénomène qui est en cours depuis longtemps.
Il y avait quand même l'immigration qui était aussi en lien dans les deux votes.
Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas un vote raciste,
je veux dire, Non, ça n'a rien à voir avec le racisme, ça a à voir avec la quantité, c'est tout. C'est un problème arithmétique. D'ailleurs, même si on disait aux gens les plus accueillants en France que 500 millions de Chinois vont venir s'installer en France où la vie est super, évidemment, ils diraient que ça ne peut pas marcher. Donc, faut pas moraliser. D'abord, ça sert à rien. Et puis, les gens qui sont tentés de dire ça, notamment les médias, donc les émetteurs, mais moi aussi, j'en fais partie. On fait partie du même système. De toute façon, on n'est pas entendu. Dans la communication, il y a l'émetteur, le récepteur, le vecteur, le message. Et quand l'émetteur est complètement disqualifié.
Entre les deux.
Oui, où il y a même un refus par rapport à ça. Bon, de toute façon, les mouvements migratoires, c'est, historiquement, si ça concerne pas trop de gens, pas trop vite, étalé dans le temps, avec des modes de vie pas trop différents, pas trop incompatibles, ça se gère à peu près partout. On peut d'ailleurs parler des autres parties du monde, parce qu'il y a des mouvements migratoires énormes au sein de l'Afrique. Tous les gens qui veulent aller en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, etc. Puis il y a les Mexicains qui veulent aller aux États-Unis, beaucoup de gens en Asie qui veulent aller en Australie. Donc, c'est pas qu'une question européenne. Quand vous avez énormément de gens en très peu de temps, et qu'il y a en plus nécessairement la confusion entre des demandeurs d'asile qui viennent parce qu'ils sont en danger, pour de vrai, et d'autre part les migrants économiques, qu'en plus il y a l'immense question concernant ce qui se passe dans l'islam. L'islam, avec tellement d'intellectuels musulmans courageux, de penseurs, de philosophes, qui disent qu'il y a un combat à mener, et qui ont, pendant très 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 longtemps d'ailleurs, été inquiets par la sous-estimation du phénomène, par l'ensemble des Européens bien-pensants. Donc il y a un jeu qui est quand même beaucoup plus compliqué que ce que l'on croit. Quand vous mélangez tout ça, bon, vous arrivez à des situations comme en Europe, où les gens se disent, on ne croit plus au système Schengen, c'est une vaste passoire, donc on rétablit les frontières nationales, jusqu'à ce qu'on ait reconstruit un Schengen qui marche. Bon, mais il ne faut pas mettre ça sur le terrain du racisme. La plupart de ces gens peuvent avoir des comportements humains personnels tout à fait normaux. Et moi, je crois qu'il faut prendre en compte ce type de demande. Mais là, on est déjà dans le sujet comment peut-on répondre.
Et ça, c'est plutôt la deuxième partie de l'émission.
Alors,
on va tout de suite parler,
Hubert Védrine,
de votre livre et du chapitre que vous n'avez pas écrit, l'élection de Donald Trump. Qu'est-ce que ça va changer pour l'Europe?
C'est l'Europe, là, qui va avoir le plus de mal à s'adapter à cette situation, en tout cas mentalement, philosophiquement, éthiquement. Parce que l'idée que les Européens se font du monde, de la communauté internationale, qui à mon avis n'existe pas encore, qui est à construire, bon, l'idée qu'ils se sont fait beaucoup des États-Unis, comme une espèce de phare de la démocratie, de la liberté, même quand les États-Unis menaient des politiques complètement contradictoires avec ça, il y a un choc presque mental. Alors que si on prend l'ensemble des autres, une Amérique qui est moins donneuse de leçons, avec un président qui en gros rompt avec le wilsonisme, qui fait que depuis un siècle, l'Amérique se croit chargée de répandre missionnaire, en fait. Mm-hmm. C'est un pays prosélyte, missionnaire. Alors nous aussi, on pense avoir des idées universelles, nous les Français, d'où souvent de l'agacement par rapport à ça. Donc un président qui est comme ça, qui dit « je vais faire des deals d'une façon brutale, égoïste, réaliste, voire cynique », du point de vue chinois, du point de vue russe, du point de vue même africain, du point de vue arabe ou autre, c'est pas bouleversant, hein. Renversant.
Mais alors, du point de vue européen.
Du point de vue européen, c'est plus difficile, justement. Parce qu'il y a une espèce d'idée également européenne que nous avons une sorte de mission civilisatrice, quoi, en gros.
D'ailleurs, Angela Merkel a répondu sur les valeurs. Quand elle l'a félicité, entre guillemets, pour son élection, elle lui a tout de suite dit, attention, on a des valeurs et on s'attend à ce que vous les respectiez.
Oui, mais je pense qu'il s'en fiche. Hein. Oui. Mais elle s'est mise sur ce terrain un peu les vieux croyants qui veulent mettre en garde contre l'hérétique. Donc il y a une sorte de mise sous surveillance du barbare hérétique qui est arrivé à Washington. Je ne suis pas sûr que ce soit follement efficace. Je ne conteste pas ça, je ne veux pas avoir l'air trop ironique non plus, mais je pense que la bonne réplique par rapport à Trump, c'est par exemple de dire, vous prétendez remettre en cause l'accord sur le climat. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez plus.
Vous pouvez sortir. Vous êtes sûr de ça?
Oui. Je pense qu'on peut le démontrer. Et qu'on va le démontrer. Il peut sortir les États-Unis. Éventuellement. Il peut pas stopper l'accord. C'est un accord international qui n'est pas fondé sur la bonne volonté du gouvernement américain. Donc il peut dire, moi je subventionne plus ce qui était prévu, je sors de là, je lance le charbon, tout ce qu'on veut. Mais les autres n'ont qu'à organiser une coalition mondiale pour la mise en œuvre durable de l'accord climat, y compris avec des relais aux États-Unis. Donc c'est pas la peine de lui faire la morale. Il faut dire, mais l'État de Californie n'est pas d'accord avec vous. La plupart des entreprises américaines vont prendre le tournant de la compétitivité écologique. qui va devenir rapidement évidente, les ONG, les gens, etc. Donc il ne faut pas se laisser impressionner par ça. Et même chose sur l'accord Iran, et même chose sur beaucoup d'autres sujets. Et ce qui m'inquiéterait dans l'affaire Trump, on peut épiloguer longtemps, pourquoi un événement qui était possible, probable, n'a pas été intégré parce qu'il était prévisible, tout en étant impensable, parce qu'il heurtait tellement la décence, l'idée qu'on se fait en Europe de la décence aujourd'hui, que c'était pas intégrable. Bon, donc le risque après, c'est qu'on soit tétanisé pendant longtemps, qu'on soit terrorisé à l'idée, il va faire ceci, c'est épouvantable, il va nommer un tel, c'est atroce, vous voyez, ce genre de réaction, alors qu'on n'a pas tellement de temps à perdre pour fixer entre Européens les positions clés pour nous. Donc arrêtons de pleurnicher, ou d'être angoissés, ou inquiets, ou choqués, et déterminons les points. J'en ai cité un, le climat, il peut y avoir l'accord Iran. Il parle d'un accord réaliste avec Poutine. Je ne sais pas s'il le fera, je ne sais pas si c'est possible, mais...
Je ne suis pas sûr qu'ils s'entendent si bien que ça.
Non, pas sûr du tout. Il n'empêche qu'au lieu de le craindre, les Européens devraient dire « Bon, voilà notre version à nous de l'accord réaliste avec Poutine. » On pourrait le faire. Comme les politiques occidentales envers Poutine et par exemple en Syrie ont échoué globalement, ce ne serait pas absurde de définir une approche réaliste des Européens. Pas forcément celle de Trump, mais ce n'est pas la peine d'attendre qu'il le fasse. François, je suggère des réactions comme ça, moi.
Voilà, je mets un coup d'avance, c'est un peu ça votre point de vue.
Ne pas attendre passivement en pleurnichant.
François Hollande était l'invité mardi dernier de RFI. Il s'exprimait de Marrakech à l'occasion de la COP22 et pour le président français, il y a une évidence au lendemain de l'élection de Donald Trump.
Ce qu'il faut maintenant, c'est que l'Europe puisse assurer l'essentiel de sa sécurité.
Et ça,
Je prends un mot plus fort que de sa sécurité. Mm-hmm. Sécurité des frontières, sécurité par rapport à la lutte contre le terrorisme, sécurité par rapport à des menaces qui peuvent venir de l'extérieur, et également intervention vers un certain nombre de zones où il y a un danger ou une menace, ce que la France a fait, notamment au Mali.
Déclic.
Oui, mais je pense que quel qu'ait été le président élu, là, au mois de novembre, y compris si ça avait été donc Madame Clinton, l'Europe était devant sa responsabilité. Et j'avais averti tous mes collègues européens. Je leur avais dit, quel que soit le président qui sera élu, vous aurez à prendre en charge votre défense.
Oui.
Avec les États-Unis.
Parce qu'Obama n'était pas
avec les États-Unis, parce que c'est notre allié. Mais parce qu'il ne peut pas y avoir un continent qui puisse protéger les citoyens s'il n'assure pas sa propre défense. Et si, deuxièmement, il n'est pas capable de porter une parole politique avec les moyens, parfois de force, que la parole justifie, d'utiliser.
L'élection de Donald Trump, Hubert Védrine, c'est l'occasion, si ce n'est de renforcer ou de réfléchir à l'Europe de la défense.
L'Europe de la défense, c'est un mot valise. Il faut faire attention à ce qu'il y a dedans. Mais je suis d'accord avec la ligne générale, là. Mais ça fait très longtemps que la question se pose. D'ailleurs, même le président Kennedy, vous voyez à quel point c'est vieux, avait imaginé le pilier européen de l'Alliance Atlantique. Ça s'est jamais produit depuis.
Ce sont les gens. On pense que c'est une occasion supplémentaire, justement, parce que...
C'est le bon moment. Est-ce que c'est le bon moment?
Il faut voir. Il faut agir pour que ce soit le bon moment, que ça devienne le bon moment. Ça ne va pas tomber du ciel, hein. Il faut distinguer deux choses. D'abord, vivre en sécurité. D'abord, ça veut dire reconstituer un système Schengen qui fonctionne, qui soit cohérent.
Des
frontières extérieures qui soient cohérentes, qui soient gérées. Frontières, ça ne veut pas dire fermeture. Ça veut dire simplement qu'il y a un passage et il y a un contrôle. Beaucoup d'Européens, à tort ou à raison, pensent qu'ils vivent dans une passoire, dans une sorte de maison sans porte ni fenêtre. Non, il y a un contrôle extérieur, garde frontière. Il faut distinguer la réponse aux demandeurs d'asile, qui sont en danger, et les questions migratoires, où moi je pense depuis longtemps qu'il faut les co-gérer avec les pays de départ et de transit, sur la base de quotas par métier annuel fondés sur des considérations économiques. C'est pas l'asile, ça c'est autre chose. Si on distingue pas vraiment, l'asile est en danger, hein, parce que les populations européennes finiront par tout bazarder. Bon, ça c'est la sécurité, plus coopération entre les polices, plus prévention du terrorisme, etc., etc.
Il faut noter que ça se met quand même un peu en place. Hein.
Il était temps. Oui, sous le coup de boutoir des événements des dernières années, ça a fini par se mettre en place. Ça aurait pu être le cas depuis le début, mais on avait développé Schengen dans une espèce d'ambiance
euphorique,
bijounours, un peu genre sans frontiérisme, vous voyez. En fait, il faut être sérieux. Ça progresse. Et les ministres de l'Intérieur, nous on a un excellent, et les ministres de l'Intérieur ont fait du bon travail. La défense, c'est autre chose. Attention à ne pas réveiller des espérances qui vont être déçues. l'Europe de la défense, ça veut dire que les Européens sont capables de défendre l'Europe. Ils en sont incapables aujourd'hui. Les États-Unis, via l'OTAN, payent 70% des dépenses. Les pays qui sont capables de monter à 2% de dépenses pour la défense, dont le PIB, sont très peu nombreux.
Il y en a 5, je crois.
5. Bon. Après, il faudrait qu'on soit d'accord sur le concept. On s'en défend contre qui, comment, à quel endroit, et qui commande, qui est le chef. La raison pour laquelle tout ça est contrôlé par le Pentagone depuis 1949, c'est que les Européens l'ont demandé. Et que les Européens ne sont pas prêts d'accepter qu'il y ait une sorte de commandant en chef de l'ensemble de ce système, qui soit, par exemple, français, par exemple, allemand, par exemple, suédois, etc. D'où le recours au système américain que, après, les Européens contestaient au nom de l'anti-américanisme, mais qui était au départ le résultat d'un manque européen, d'une défaillance.
Est-ce que vous croyez possible qu'à la suite de l'élection de Donald Trump, il se désengage justement un peu de l'OTAN et que ça laisse...
Les Américains, depuis toujours, avant Trump, là, il est moins original que dans la rupture avec le wilsonisme, disent qu'il faut faire un plus gros effort en matière de budget. C'est ce qu'on appelle le partage du fardeau.
C'est une vieille lune.
Vieille lune, vieille demande. Mais chaque fois que des Français, genre gaullisme ou mitterrandisme à un moment donné, on dit « oui, mais alors à ce moment-là, il faut plus de partage de la décision », les Européens ont dit non, parce que ça va être les Américains, pardon, ont répondu non en disant ça va être le chaos. Donc le débat...
Aidé un peu par les Britanniques, d'ailleurs.
Oui, mais non, pas tant que ça. Chaque fois qu'on a voulu faire quelque chose vraiment, les Britanniques n'ont pas pu l'empêcher. En tout cas, on n'est pas sorti de la contradiction. Imaginons que Trump dise, écoutez, je suis sérieux, j'en ai marre de payer 70%, je ne paye plus que 50 ou 30%. En effet, il faudrait agir pour que ce soit l'occasion pour que les Européens surmontent leurs contradictions, sortent d'une sorte de coma historique, disons de langueur, pour être moins agressif, et puis s'organisent sur quelques objectifs, y compris la capacité d'intervenir à l'extérieur. Par exemple, c'est pas normal que la France était quasiment seule au Mali. C'est une demande justifiée, gouvernement, tous les pays africains, Conseil de sécurité. On peut contester beaucoup d'interventions, mais pas celle-là. Alors la France s'est retrouvée à peu près seule. Est-ce que l'élection, plutôt la mise en œuvre par Trump de sa politique, va produire ce déclic? Je le souhaite, mais il faut agir dans ce sens. Il ne faut pas attendre 3 mois, 6 mois qu'il soit installé, il faut prendre les devants. Mais pour le moment, les réunions, on a dit, ça y est, la défense européenne redémarre, vous regardez de près. Il s'agit simplement de renforcer la coopération existante. Parce qu'on n'a pas franchi le seuil. Et il faudrait vraiment que les dirigeants européens aient le culot de dire « bon, mais c'est maintenant ».
On prend les choses en main.
On reprend en charge notre propre destin dans une alliance.
C'est possible de le faire sans les Britanniques ?
Comment ?
C'est possible de le faire sans les Britanniques ?
Mais on ne va pas faire sans les Britanniques. Le traité de Lancaster House... D'abord, l'Europe n'a aucune compétence en matière de défense dans les traités. Donc on n'a rien perdu.
Mais si jamais, justement, ils se mettent à essayer de développer ça et que les Britanniques s'en vont ?
Ils s'en vont pas de ça. D'abord, ils ne sont pas encore sortis et personne ne sait quelle sera la situation dans un an ou deux, aussi bien en Angleterre que chez nous. Deuxièmement, il y a un traité bilatéral France-Grande-Bretagne, le traité de Lancaster House, qui est remarquable. On ne peut pas se passer de la capacité britannique. Il y a une fondation qui est pour le coup vraiment européenne, quasiment européenne, c'est la fondation Schuman, animée par M. Giuliani. Il a proposé récemment un traité intergouvernemental entre la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne en matière de défense. Bon, on ne vient pas du même parcours intellectuel, lui et moi, mais je trouve que c'est la meilleure contribution qui a été proposée en matière d'Europe de la défense. Si on est sérieux, faisons ça. Sinon, ce n'est pas la peine de parler dans le vide et de créer des attentes imaginaires.
Les Britanniques seraient partants, les Allemands aussi, selon vous ?
C'est à voir. C'est une idée, pour le moment. Les Britanniques ont déjà un accord France-Grande-Bretagne. Pourquoi ils refuseraient un accord avec l'Allemagne ? C'est l'Allemagne qui peut avoir des problèmes par rapport au fait qu'elle ne veut pas donner l'impression de redevenir une puissance, ce qu'elle est déjà, en fait. En tout cas, c'est une bonne idée pour dépasser le stade des discours sur le sujet. Donc, vous voyez, je distingue sécurité du territoire et défense au sens classique.
Hubert Védrine, on va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Le temps de prendre connaissance des dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Spotkania europejskie.
Cruzamento d'Europa.
Раскруча Европы.
Ставродромитис Европис.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Si vous nous rejoignez, nous sommes avec Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Lionel Jospin, qui vient de publier un petit livre très ambitieux sur l'Europe, puisqu'il s'intitule tout simplement « Sauver l'Europe ». Il est publié chez Liana Levy. Dans la première partie de l'émission, nous avons surtout analysé les conséquences que pourrait avoir en Europe la victoire de Donald Trump. Nous allons nous attarder maintenant sur la méthode Védrine pour sortir l'Europe de l'ornière dans laquelle elle s'est enlisée. Clémentine Forissier, rédactrice en chef de contexte.com, est toujours à mes côtés pour vous interroger. Et je vous rappelle que vous pouvez suivre cette émission en audio et en vidéo sur RFI.fr. Question de Clémentine Forissier.
Dans votre livre, vous parlez beaucoup des élites européistes. Mais pourtant, dans la classe politique française, les politiques parlent très peu d'Europe. Et souvent, même dans la haute fonction publique, les gens soit n'y connaissent rien, soit sont très peu intéressés par le sujet. Alors, c'est qui ces élites européistes dont vous parlez ?
C'est l'ensemble de ceux qui considèrent que l'intégration européenne doit se poursuivre, quoi qu'il arrive, quels que soient les votes. Donc c'est dominant dans à peu près tous les gouvernements depuis longtemps, droite et gauche. C'est dominant dans la fonction publique qui peut râler, mais enfin qui en fait va dans ce sens, qui d'ailleurs se sert du système européen pour faire passer des réglementations à la française, en alimentant la furie réglementaire de la Commission et du Parlement. Il y a aussi le rôle des gouvernements nationaux. L'ensemble de ceux qui considèrent que si l'Europe s'arrête, c'est la catastrophe, parce que c'est un peu comme le vélo, si on s'arrête, on tombe. Donc ceux qui considèrent, ça c'est la téléologie, qu'il ne peut pas y avoir de retour en arrière, etc., etc. Et l'ensemble de ceux qui disent quand un des peuples européens vote non, ou vote contre, ou s'abstient beaucoup, en gros ils disent, bon, on continue comme avant. L'ensemble de ceux qui considèrent que ceux qui sont critiques ou hostiles à tel ou tel aspect de la construction européenne sont juste des arriérés, des sortes de semi-débiles, et que ce sont des souverainistes en réussissant à faire du mot souveraineté, qui est une belle conquête historique, politique, un élément négatif. Bon, donc souverainistes, archaïques, populistes, etc., etc. C'est l'ensemble, en gros, de ce qu'on a entendu à l'époque de Maastricht, qui est passé avec un point d'écart.
1992,
il faut rappeler. 92, donc il y a longtemps. Au moment du référendum de 2005 sur le traité constitutionnel rejeté par les Français, plus encore par les Néerlandais, beaucoup plus européens historiquement que les Français. Et d'ailleurs, le chancelier Schröder m'a dit plusieurs fois après que s'il y avait eu un référendum en Allemagne, la réponse aurait été non aussi. Donc les européistes, en gros, je sais bien que le mot est parfois employé de façon péjorative, mais il faut trouver un mot pour distinguer les pro-européens, disons, classiques, et ceux qui considèrent qu'il faut quand même toujours aller plus loin dans l'intégration, quoi qu'il arrive. Or, quelqu'un comme Schäuble, le ministre allemand des Finances, qui est quasiment le dernier Allemand à parler du couple franco-allemand, qui est un pro-européen sincère de toujours, il dit quand même depuis des mois quelque chose qui est fascinant. Il dit que c'est quand même gênant de ne jamais tenir compte des peuples. Parce qu'on est censé être des démocraties, malgré tout. Bon. Donc, l'addition de tout ça m'a fait réfléchir à comment est-ce qu'on peut remettre les peuples dans le coup ? Parce que pour moi, la menace numéro un sur le projet européen, qui reste magnifique si on le repense, la menace numéro un, ce n'est pas les provocations de Poutine, ce n'est pas l'afflux combiné des immigrants et des réfugiés, ce n'est pas l'élection de Trump, ce n'est pas le Brexit, etc. C'est le fait que les peuples décrochent et qu'il n'y a plus de soutien, en fait. Donc le projet est en danger vrai.
Donc il faudrait changer le discours et les actes.
Alors il faudrait changer le discours, abandonner le mépris. Mais ça suppose de la part des fameuses élites, qui ne sont pas toutes européistes, mais enfin bon, ça suppose un changement quand même pénible pour elles, parce qu'il faudrait admettre que quand les peuples demandent à garder une certaine identité, un certain niveau de souveraineté, même si on l'exerce en commun en Europe, et qu'elles veulent de la sécurité, ce ne sont pas des demandes répugnantes, et qu'il ne s'agit pas simplement de les insulter. Vous n'avez rien compris, ceci, cela. Donc il faut admettre qu'il y a quelque chose de juste là-dedans, qu'il faut canaliser pour donner à ces demandes une réponse raisonnable. Sinon, ces demandes vont alimenter les extrémismes.
Alors, Hubert Védrine, qu'est-ce qu'il y a ?
Donc, c'est là où je me différencie de beaucoup de gens qui parlent sur l'Europe ou qui écrivent en disant il faut continuer comme si de rien n'était.
Droit devant.
C'est pas ma ligne.
Alors, qu'est-ce qui a particulièrement mal marché au fil du temps dans cette construction européenne ? C'était tout de même une très belle idée.
D'abord, ça n'a jamais été une idée exigée par les peuples. Vous n'avez jamais eu de manifestation énorme de gens disant on veut plus d'Europe. Donc pour le coup, c'est une demande de petites élites qui ont bénéficié de la paix rétablie en Europe par les Soviétiques et par les Américains. Plan Marshall, c'est l'origine en fait. Et après, ils ont transformé cette paix froide en quelque chose, un projet en commun, magnifique. Mais c'est toujours des petites entités, en même temps démocratiques, parce qu'ils arrivent à convaincre des gouvernements démocratiques. Je n'ai jamais dit que c'était... Je ne crois pas qu'il y ait de déficit démocratique par rapport à ça. Il y a une perte de sens en cours de route, mais il n'y a pas de déficit démocratique. Bon, tant que c'est un marché commun, qu'il n'y a pas une normalisation à outrance, c'est l'expression...
On n'est pas trop nombreux.
Non, c'est pas de question. Non, c'est plutôt de la question de la pression atmosphérique, plutôt que la question de la circonférence. Bon, en tout cas, ça peut aller jusqu'à un certain moment. Quand on en arrive au stade où, au moment de la réunification, où Mitterrand voyait ça depuis 10 ans, en disant le jour où il y a la réunification, il ne faut pas qu'on reste simplement dans la zone marque. On était dans la zone marque avant. En plus, la politique qu'on menait nous obligeait à dévaluer régulièrement. Il fallait mendier auprès de la Banque centrale allemande le chiffre de dévaluation.
Et on dévaluait toujours par rapport aux marques.
Oui, donc il fallait qu'ils acceptent, parce que ça les réévaluait, eux. Bon, d'où l'idée d'avoir plutôt une monnaie unique. À partir de ce moment-là, quand François Mitterrand a décidé de soumettre ça au référendum, il a dit à plusieurs de ses proches dont j'étais, « Je ne me sens pas le droit d'aller aussi loin sans vérifier que les Français sont toujours d'accord. » D'où le passage par référendum. Gagner ric-rac.
Ric-rac, hein, 51% et quelques centimes.
Alors, gagner quand même, enfin, ric-rac. À partir de là, on voit bien que, en gros, les classes populaires ne suivent plus, en fait, parce qu'elles ne voient pas ce qu'elles y gagnent dans l'affaire. Puis il y a le mélange, c'est malheureux pour l'idée européenne, mais il y a le mélange avec une mondialisation très bénéfique historiquement, mais qui a été trop loin, qui est trop, trop dérégulée, trop financiarisée, etc. Bon. Donc tout ça se mélange, et il y a un regret. Il y a un rejet progressif. Mais à mon avis, ça aurait pu être corrigé si précisément le système européen s'était pas mis à normaliser à outrance, j'aurais peut-être le mot, parce que c'est le mot du président de la Commission, Jean-Claude Juncker. Il dit, nous avons eu tort de réglementer à outrance. Vous savez, les centaines de directives sur la...
Surtout et n'importe quoi.
Les chocolats, les concombres, les bananes, les pommes de
bouche. Mais il y a toujours une origine. Je veux dire, c'est pour la fluidité du marché intérieur. Je veux dire, c'est pas fait comme ça en claquant des doigts.
Naturellement. Enfin, il n'empêche qu'il y a quand même aussi une prise de pouvoir bureaucratique de la Commission et une pouvoir politique par le Parlement, mais c'est très alimenté par les pays membres, la France en tête, qui a une sorte de génie pour faire passer au niveau européen des réglementations inapplicables que nous inventons constamment. Bon. Donc tout ça aboutit aussi, c'est Juncker qui le dit, c'est pas un anti-européen. Nous avons eu tort de réglementer à outrance. Je sais pas si vous avez déjà lu la directive chocolat, par exemple, ou une autre, vous verrez ce que ça veut dire. Pour des gens. Et pourquoi ? Parce qu'on a, à un moment donné, on a pensé que le seul objectif de l'Europe, c'était le marché unique. Et on ne l'a pas réglementé par objectif. On aurait pu dire, eh bien, dans les 5 ans, il faut réduire de 10% l'usage d'un produit dans l'agriculture qui est dangereux, etc. Bon, maintenant, débrouillez-vous. Non, le système a pris le pouvoir pour réglementer dans le détail. Puis après, vous aurez des 10 pages sur les tondeuses à gazon, etc., etc. Ça a confisqué un peu la démocratie nationale, ça l'a vampirisée, ça l'a cannibalisée. Et le système, mais c'est après l'acte unique de 86, marché unique. Donc c'est un élément de... Il y a ça à mes yeux, puis l'après Maastricht. Donc on arrive dans un système où beaucoup de gens ont le sentiment que l'Europe s'occupe de tout et de rien, fait des promesses sans arrêt, du coup les gens sont déçus, alors qu'elle ne s'occupe pas des choses essentielles. Je sais bien que c'est facile à dire, c'est quoi les choses essentielles ? Aujourd'hui c'est la sécurité. Donc c'est refaire Schengen.
C'est la croissance, c'est lutter contre le chômage.
C'est pas que la croissance. Il y a un élément identité souveraine. Tout ce que les élites détestent, ça ressort d'absolument tous les votes, toutes les consultations populaires. Il y a un élément d'identité, de souveraineté. Et même quand on est mal à l'aise avec ces concepts, précisément, il faut leur donner une réponse raisonnable par rapport à ça. Donc c'est en pensant à tout ça que je propose, moi, qu'il y ait un vrai signal adressé au peuple, ce que j'appelle la pause. C'est pas pour tout arrêter.
Alors là,
c'est pour envoyer un message.
On arrive dans la méthode... Védrine, le plan Védrine, en 3 temps, une pause, une conférence et une refondation. La pause, pourquoi ?
Parce qu'il faut envoyer un signal. Il faut être capable de dire au peuple, on a compris ce qu'a dit Schäuble, que j'ai cité. Mais il faut le dire en grand. Il faut que ce soit spectaculaire. Un Conseil européen qui ne dit que ça, qui soit différent dans une ville qui n'est pas les villes habituelles des Norias, des sommets, etc. Donc un message. Bon, écoutez, on a compris... Notre projet est commun, mais vous avez votre place dans notre projet. On s'arrête un instant pour écouter ce que vous dites.
C'est d'ailleurs un peu l'idée de Jean-Claude Juncker qui a dit « Cette commission que je préside, elle légiférera moins et elle essaiera de légiférer mieux ».
Oui, alors, il l'a fait au début très bien avec le vice-président Timmermans. Ils ont mis à la poubelle des dizaines de directives qui n'étaient pas justifiées ou qui n'auraient de toute façon jamais abouti. Il a été accusé de manquer d'ambition. au Parlement européen.
Par les fonctionnaires européens de la Commission.
Alors, les fonctionnaires, évidemment, ça leur enlève leur gagne-pain, mais le Parlement européen l'a accusé de manquer d'ambition.
Et donc, les États ont voulu le déboulonner, à commencer par les Allemands.
Alors, ça dépend des cas. C'est pour d'autres raisons. Le jeu de Mme Merkel est plus complexe qu'on ne croit.
Oui, parce que justement, il fait un peu politique en faisant ça. Il agit, quoi.
Non, parce que les Allemands, en Allemagne, les Länder sont tous furieux contre le grignotage des compétences par la Commission. Commission plus Cour de justice. Donc, ils sont assez d'accord avec la subsidiarité. Peut-être que dans tel ou tel cas, ça ne les arrangeait pas, mais enfin, globalement, ils ne sont pas en désaccord. Mais beaucoup de parlementaires, disaient que quelqu'un qui renonce à être une sorte d'usine à directive sur la forme des concombres manque d'ambition. C'est là où je dis qu'il faut remettre les choses d'aplomb, que le but n'est pas forcément l'harmonisation au sens vraiment adjutantesque, vous voyez, dans le système du marché unique, et qu'il faut redéfinir les grands objectifs qui sont simples. Les Européens, élites et peuples confondus cette fois-ci, sont attachés au mode de vie à l'européenne. On n'a jamais eu l'équivalent dans l'histoire, en fait. On n'a jamais eu des sociétés meilleures ou moins mauvaises, comme on veut, et c'est comparable à rien. C'est pas le mode de vie américain, c'est pas le mode de vie russe, ni chinois, ni africain, ni rien. Donc tout le monde est attaché à ça. Est-ce que ça doit se traduire par une sorte d'énorme système archi-réglementaire ? Pas forcément, il faut redonner de l'oxygène. D'où mon idée, on commence par dire, on vous écoute, on fait une conférence, mais là...
Alors, qui participe à cette conférence ? Alors, comment ça s'organise ? Parce qu'il y en a déjà des quantités de conférences.
Oui, justement. Je suis un peu provocateur. Je suggère une conférence comme ce qu'il y a eu avant le traité de Rome à Messine en 1955, où il n'y a que les gouvernements décidés à tenter l'opération refondation, relégitimation, sans les institutions européennes au début. Alors, je sais bien que
c'est... Donc, l'idée, c'est, je vous adressez aux 28 pays, enfin, 27 hein, pays de l'Union européenne,
non,
qui veulent venir.
Non, ceux qui veulent venir.
Qui veulent venir. Donc, par exemple, Viktor Orban n'est pas intéressé, il ne vient pas. Le Polonais n'est pas intéressé, il ne vient pas.
Viennent ceux qui veulent. Et après, on essaie de faire l'opération subsidiarité.
Vieux mot qu'on employait déjà. C'est un mot un peu compliqué, je vous laisse l'expliquer.
C'est un mot de la théologie catholique, ça veut dire qu'on ne fait au niveau supérieur que ce qu'on ne peut vraiment pas faire au niveau en dessous. Donc ça veut dire que l'Europe n'est pas chargée de tout surréglementer. D'ailleurs, aux États-Unis, il n'y a personne à Washington qui soit payé pour réglementer la forme des pommeaux de douche dans le Wyoming. Bon. Donc on n'est pas obligé d'adopter cette espèce de furie normalisatrice. Donc la conférence dirait, voilà ce dont l'Europe ne doit plus s'occuper. Au lieu de s'agiter dans tous les sens, s'occuper de ce qui ne la concerne pas, il faut redonner de la marge de manœuvre au niveau national, régional, local.
Donc on est lag.
Et en revanche, on est lag. Et en revanche, il y a deux ou trois grandes missions, dont peut-être plus de sécurité qu'avant, voire peut-être de la défense, ce qui n'existait pas avant. Si le traumatisme Trump a fonctionné, voyez, ou d'autres choses, ou par exemple, moi je suis attaché à ça, un encouragement à l'écologisation de l'agriculture, l'industrie, les transports, etc., sur 10, 20, 30 ans, pas pour faire à la place des autres, voyez, pas pour se substituer à, mais pour encourager. Enfin bref... Je ne vais pas inventer moi-même les résultats d'une conférence que je ne connais pas, que je ne fais que proposer. Et si on arrive à une répartition des rôles beaucoup plus claire et qui permet de faire re-respirer les démocraties, alors là, on peut aller à la consultation populaire, voir des référendums partout. Les référendums avant, c'est juste pour disloquer, en fait. C'est pour sortir du jeu. Puisque pour relégitimer, on pourrait peut-être le faire. Mais peut-être qu'on n'a pas besoin. Peut-être qu'il suffirait que... Le Parlement européen en dos, c'est tous les parlements nationaux, le résultat de ça. En tout cas, je sais bien que mon plan est très difficile à mettre en œuvre, que le système n'est pas capable de se réformer par lui-même, que personne n'a peut-être la force aujourd'hui de le réformer, mais je suis sûr que si on continue sans rien changer, on va à des catastrophes. D'où mon idée. S'il y a un meilleur plan que le mien, j'applaudirai. Hein.
Donc votre idée, c'est l'anti-constitution de 2005 qui était illisible, que personne n'a compris. L'idée, c'est de simplifier, de clarifier qu'est-ce qu'on a à faire ensemble,
délaguer.
Qu'est-ce qu'on peut faire. Délaguer dans un premier temps, de simplifier et d'aller à l'essentiel.
Oui. L'essentiel aux yeux des Européens. Alors c'est quoi l'essentiel ?
Alors voilà.
Là, on va trouver une combinaison.
En tout cas, c'est pas le marché unique. C'est pas le marché unique.
Le marché unique devrait être un instrument parmi d'autres qui soit harmonisé par objectif en laissant les acteurs locaux s'organiser. Les Européens, ils veulent vivre en sécurité, ils veulent préserver leur mode de vie, ils veulent pas que leur identité soit complètement dissoute dans un magma général. Ils veulent garder un peu de souveraineté quand même, quitte à ce qu'on leur dise c'est pas raisonnable de l'exercer chacun dans son coin. Bon, mais il faut écouter cette demande au lieu
Est-ce qu'on peut dire qu'il existe un essentiel commun entre un Polonais, un Portugais et un Suédois ? Ou est-ce que c'est indéfinissable ?
Ben, vu de Stockholm ou de Lisbonne, peut-être pas, mais vu de Pékin, oui. Ou de Moscou, vous voyez, ou de...
Mais bon. Vous ne convoquez pas le président chinois, vous convoquez les...
Non, mais la réponse est évidente en termes de civilisation. Ouais. Civilisation, culture, mode de vie. Mais on n'a pas forcément besoin d'institutions pour ça.
Donc reprise de conscience des Européens.
Il faut le préserver. C'est pas évident que ça demeure. Regardez, on est dans un monde qui n'est pas encore donc une communauté internationale, qui est un monde d'affrontements, de rapports de force.
Une grande fragilité.
Qui est un monde dur, instable. Il y a non seulement des grands pays, mais il y a aussi toutes les convulsions au sein de l'islam. Enfin, il y a beaucoup de choses qui s'additionnent. Il faut qu'on préserve ça. C'est très important. Et on n'a pas besoin de le faire en surréglementant. Regardez l'influence qu'ont, par exemple, les entreprises californiennes, les fameuses GAFA, Google et compagnie, etc.
Google, Apple, Facebook et j'en oublie une.
Ils ont une influence géante
Amazon.
Sur le monde. Si l'Europe n'est pas capable de garder innovation, inventivité, compétitivité, qu'elle a beaucoup perdu, eh bien, elle ne sera jamais une Europe puissante, elle sera impuissante et donc dépendante des décisions prises par les autres.
Mais là, on parle pas de civilisation quand on parle de compétitivité.
Si, ça en fait partie. L'absence de compétitivité n'est pas un objectif extraordinaire en soi. Et on est dans un monde réel, on n'y peut rien. Il y a les autres, on n'est pas tout seul. Et les Occidentaux ont perdu le monopole du pouvoir et de la puissance dans le monde. Donc il faut quand même se remuer un peu. C'est pas tragique, on l'a déjà fait dans des tas d'autres circonstances. C'est pas inatteignable, ce que je dis. Donc il faut réussir à réintroduire ces éléments qui ne se traduisent pas forcément par des institutions. Il ne s'agit pas de s'en remettre à l'Europe au niveau européen parce qu'on serait trop vieux, trop fragile, trop petit ou écrasé par un passé chargé. C'est pas ça que je dis. Au contraire, je continue à rester sur la ligne. L'union fait la force. Parce que certains me disent dans d'autres émissions, mais pourquoi vous restez quand même pro-européen ? Régis Debray m'a demandé ça dans une autre émission. Je dis précisément parce que cette civilisation que nous avons en commun n'a pas de prix. Donc je cherche le moyen de la préserver sans que les peuples soient furieux et le sentiment qu'on leur a piqué tout ce qu'il leur restait, c'est-à-dire un petit peu d'identité. J'essaie de dépasser cette contradiction.
Alors, rien ne peut se faire sans l'Union, rien ne peut se faire probablement aussi sans une refondation de la relation franco-allemande. Et sur ce sujet, nous allons faire un détour par la rédaction de Courrier International, où nous rejoignons Eric Scholl, le directeur de la rédaction de Courrier International, qui a une question à vous poser, Hubert Védrine.
Vous évoquez dans votre livre la relation franco-allemande, le décrochage de la France vis-à-vis de l'Allemagne, et vous pointez du doigt les responsabilités de chacun, celles de la France, mais aussi celles d'Angela Merkel. Au fond, dites-vous, cette notion de couple franco-allemand appartient à l'histoire, ce qui ne vous empêche pas de parler de la nécessité de recréer les bases saines d'un partenariat entre les deux pays. Alors, Hubert Védrine, ma question va être directe. Qui voyez-vous pour mener cette franche discussion entre Paris et Berlin ? Toujours François Hollande et Angela Merkel, ou par exemple eh bien Alain Juppé et Martin Schulz.
Non, je ne vais pas entrer dans les considérations, disons, politico-électorales, parce que le raisonnement est indépendant des personnes. Mais ce dont je suis convaincu, c'est que si la France ne fait pas les fameuses réformes que beaucoup de Français combattent, mais que tous les pays développés ont fait, tout simplement pour reprendre le contrôle de la dépense publique, parce que c'est immoral de vivre uniquement à crédit, à coût d'endettement, sans arrêt. La force de Mme Merkel découle de Schröder. De même que la réunification a été obtenue grâce à Gorbatchev, en fait. Donc l'Allemagne est forte pour ces différentes raisons, et nous, on a décroché. On a décroché. Donc autant, je dis dans ce petit livre, à la fin, que c'est pas la peine de pleurnicher, là aussi, sur le couple franco-allemand d'autrefois, vous reverrez jamais de Gaulle à Adenauer et Giscard Schmitt, Kohl-Mitterrand. C'était bien une situation particulière de l'après-guerre, la réunification. Il n'y a plus de couple au sens lyrique depuis la réunification.
Mais il y a des intérêts communs.
Il reste des intérêts communs, autant les exprimer, avoir le courage de les exprimer. Pour l'Allemagne, ce n'est pas commode non plus d'être aussi forte dans l'Europe d'aujourd'hui, c'est gênant. Et elle n'a pas de solution de remplacement. Il n'y a pas d'autre partenariat possible. Donc je suis pour rebâtir un partenariat dans lequel on se parle franchement, dans lequel les Allemands disent « mais c'est incompréhensible, vous ne fassiez pas les réformes, peut-être pas à la Schröder, mais au moins comme les Suédois, les Canadiens, etc. »
Et peut-être un peu plus qu'à la Macron quand même.
Et nous les Français, on dit « mais vos décisions électoralistes en matière d'énergie, on se met le chaos complet dans toute l'économie de l'énergie en Europe pendant 15 ans.
Bon, » Vous faites référence à l'arrêt du nucléaire,
oui, du jour au lendemain, à la suite de Fukushima. Prématuré, non préparé, ce qui fait que les allemands ont relancé le charbon et la lignite.
Même chose pour l'accueil des réfugiés du jour au lendemain.
Alors, mais ça, c'est, ça sert à rien de se dire ça si on n'a pas rétabli un partenariat, vous voyez. La réfugiée, elle avait raison sur le plan moral, sur le plan humain, par rapport aux vrais réfugiés. Mais la façon dont elle l'a géré a attisé le mouvement. Et du coup, pour en sortir du piège dans lequel elle s'est mise, elle a dû aller elle-même toute seule en Turquie. Elle a lâché trop aux Turcs. Bon, c'est un épisode qui est pas idéal, en réalité. Mais on ne peut dire des choses comme ça, une conversation franche entre amis, que si on s'est remis au niveau. Et là, on n'est plus au niveau.
Entre Hollande et Merkel, là, du coup, il n'y avait pas de conversation.
Je ne personnalise pas. Hein. Sans personnaliser. Quelle que soit la qualité, la bonne volonté, la sincérité des dirigeants, il y a un problème réel qui est celui des pays. Donc, comme je continue à penser quand même qu'il n'y a pas d'alternative vraie au partenariat franco-allemand, je suis pour le reconstituer, mais pas à coup de formule sentimentale ou de commémoration.
Mais on manque quand même de vrais grands Européens et de nouveaux grands Européens. Là, si on regarde un peu le personnel politique en Europe, la tendance est quand même plutôt repli sur soi, plutôt qu'à rencontrer, à entendre des vrais grands Européens. Ça manque tout de même un petit peu.
C'est pas du repli sur soi. Tous ces gens-là sont très ouverts, mais c'est une question de poids. Cela dit, il n'y a pas de réponse vraie à votre question, parce qu'on ne sait jamais si c'est l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est des circonstances tragiques ou importantes qui créent des grands leaders? Ou est-ce que c'est les grands leaders qui façonnent leur époque? Il n'y a pas de réponse claire à ça, vous voyez. Puis ça ne change rien au raisonnement selon lequel il faut remettre la France à niveau pour pouvoir parler à l'Allemagne.
Est-ce qu'on peut quand même expliquer aux Européens une Europe qui serait plus simple? Ou est-ce qu'il y a un tel rejet que, de toute façon, quoi que vous disiez, les Européens ne comprendront pas, les peuples ne comprendront pas?
S'il n'y a pas un événement spectaculaire... Je parlais d'un gong, il faut que ce soit un coup de cymbale, enfin quelque chose d'un peu spectaculaire, d'où mon idée de la pause, qui est une pause momentanée, hein, mais c'est une idée plus psychologique et de relationnelle que juridique ou autre. S'il n'y a pas un événement dans lequel il dit « bon, on a compris, on vous écoute », il est certain qu'ils n'écouteront pas, donc que ça continuera. Et c'est pas les sommets à répétition qui arriveront à se faire entendre. Donc il faut tenir compte du fait que l'émetteur est disqualifié. Enfin, les émetteurs, au sens large.
Est-ce qu'il y a
Donc, il faut casser ça. Il faut créer un intérêt par quelque chose de strident, de dissonant.
Et vous pensez à quoi?
C'est ce que j'ai dit.
Pause, mais pause. Ça suffit. Une pause par définition, c'est silencieux.
Non, c'est l'annonce de la pause qui est importante. C'est pas la pause en soi. Étant donné que les gens ont le sentiment que c'est un engrenage, que personne ne contrôle, qu'aucun vote ne corrige, et que c'est jamais modifiable, et que donc leur bulletin de vote vaut rien, le fait d'annoncer une pause en disant « on vous écoute », c'est un événement.
Il faut beaucoup de courage politique pour faire ça.
Oui, mais il faut beaucoup d'inconscience politique pour ne rien faire.
Est-ce que la période dans est au courage système, politique
Peut-être que c'est ce que vous me disiez tout à l'heure à propos du choc provoqué par Trump. Donc peut-être que Trump va entraîner des réactions en chaîne.
Positives.
Voilà, où tout le monde va dire « America first, Europa first », après on voit bien que c'est plus compliqué que ça.
Il y a eu des échos
interdépendants, en réalité.
Il y a eu des échos favorables à votre idée en Europe, en dehors de, peut-être même en France?
J'ai pas d'échos institutionnels pour le moment. Ou alors c'est des dirigeants qui m'ont dit du bien, mais qui me l'ont dit en privé, que je peux pas citer, là. En gros, ils me disent « tu as raison, on peut pas continuer comme ça ». Voilà ce que j'entends. Alors, oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Après, c'est plus compliqué. Puis non, j'ai beaucoup d'échos de, comme vous, de journalistes ou d'analystes ou de think tank ou de commentateurs.
Qui s'intéressent au moins à l'idée.
Oui, oui, oui.
Et on arrive au terme de cette émission, Hubert Verdine. Et si l'Europe n'existait plus?
L'Europe en tant qu'institution?
En tant qu'institution, oui.
Vous retrouveriez les pays d'Europe qui sont toujours là.
La géographie reste, bien sûr.
De toute façon, il n'y a pas d'Européens. Il y a des Suédois, des Portugais, des Danois, des Grecs, etc., etc. La géographie est là, l'histoire est là, la civilisation est là. Donc les choses continueraient. D'ailleurs, curieuse, mais je plaide pas pour ça, faut pas me piéger dans l'affaire, mais curieusement, l'Europe a eu une influence inimaginable dans le monde, puisqu'elle avait colonisé le monde entier, à l'époque où elle était totalement divisée. Donc c'est un paradoxe qui donne le vertige un peu.
Est-ce qu'il n'est pas...
Et je souhaite pas ça, puisque si je souhaitais ça, je ne proposerais pas un plan pour sauver l'idée, qui est de sauver le mode de vie à l'européenne. Mais je pense qu'on peut avoir des institutions différentes, repensées, corrigées, allégées, fonctionnant de façon subsidiaire, que ça redonnerait beaucoup d'oxygène à la démocratie nationale, et qu'on s'y retrouverait mieux, quoi, entre les leaders, les dirigeants et les peuples. Mais je ne crois pas à la dislocation complète non plus. Je ne la, je la souhaite évidemment pas.
L'Europe ne va pas se disloquer, s'effondrer, vous n'y croyez pas un seul instant. Quels que soient un peu les gouvernements qui arriveront au pouvoir, et parfois il y en a des très anti-européens.
Il y a un humoriste remarquable, méconnu, qui est Jean-Louis Bourlange. Enfin, en fait,
c'est un ancien eurodéputé.
C'est un Européen convaincu. Il a dit récemment...
Beaucoup d'humour.
Oui, ben, la preuve, je vais le citer. Les Européens n'ont même plus la force de se séparer. Donc, d'une certaine façon, ils restent ensemble, mais il faut faire de cette obligation et de cette nécessité refaire un projet. Mais je me répète, un peu trop, mais on ne peut pas le faire sans les peuples.
Merci Hubert Védrine. Je rappelle le titre de votre livre, Sauver l'Europe, chez Liana Lévy. Merci d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Merci à Clémentine Forissier de Contexte.com. Réalisation audio et vidéo, Guillaume Munier. Vous pouvez réécouter et revoir cette émission sur la page de l'émission Carrefour de l'Europe RFI et sur les applis mobiles mais gratuites de RFI. On reste bien sûr en contact via Twitter et Facebook. Daniel Desescalles, que vous soyez en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI. La radio de l'Europe et du monde. Au revoir.